La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'aborder aujourd'hui le sujet de la transformation des pratiques managériales, à travers l'exemple de M. Philippe Studer, qui au sein de son entreprise a mis en œuvre une organisation basée sur des apprentissages vécus auprès de peuples racines qu'il a rencontrés à l'occasion d'un voyage. Pourquoi un tel voyage? Qu'a-t-il pu en retirer? Ce sont deux questions que nous posons et auxquelles va tenter de répondre notre invité. Bonjour Philippe.
Bonjour Jean-Michel.
Philippe, comment est née l'idée de partir à la rencontre des peuples racines?
Alors déjà, avant de partir à la rencontre des peuples racines, ma passion c'est le voyage. Donc j'avais un vieux rêve à l'âge de 20 ans qui était de partir faire un tour du monde. J'étais aussi à l'époque inscrit à médecin du monde et j'ai été pris par le tourbillon de l'aventure de la création d'entreprise, qui est un autre voyage plus centré sur l'entrepreneuriat. Et je me suis retrouvé finalement comme ça à 42 ans sans avoir assouvi ce rêve de jeunesse, ce rêve de 20 ans. Mais on continuait quand même en famille et avec mon épouse à garder un mois chaque année pour faire un voyage. Et ces voyages-là, on les faisait, effectivement, on descendait à la rencontre de peuples premiers, de peuples racines. Et on a fait une rencontre extraordinaire. Ça s'est passé au Mexique, au Chiapas. On a rencontré Sergio Castro, qui est un Mexicain, mais qui est devenu le frère des Indiens. On l'appelle Yokshi, ses pattes de serre. Et Sergio, qui pourtant est un agronome de métier, faisait office de médecin et allait tous les jours soigner les Indiens dans les petits villages. Donc on l'appelait Yokshi parce que patte de serre, il allait à pied dans la forêt pour aller à la rencontre des Indiens qui n'avaient pas accès aux soins. J'ai fait une semaine avec Sergio, de 6h du matin à 22h le soir. J'étais sur les rotules, mais avec des rencontres humaines extraordinaires. Et surtout un Sergio qui était vraiment un passeur d'espoir. Et c'est extraordinaire parce qu'il m'a dit, tu sais Philippe, 50% de la guérison du malade, c'est la confiance que tu vas lui donner. Et à partir de là, on a monté une association humanitaire qui existe toujours, qui a 20 ans d'âge, qui s'appelle Maya Solidarité. Et après Maya Solidarité, nous avons monté une association qui s'appelle Ligne Verte Terre de Paix, qui a la vocation de soutenir et d'aider les peuples racines à sauvegarder les traditions et à sauvegarder les savoirs ancestraux. Donc c'est comme ça, effectivement, que quand on a décidé de faire notre tour du monde en 2008, l'idée n'était pas d'engranger des kilomètres, mais plutôt d'aller à la rencontre de ces peuples racines pour porter des actions de sauvegarde des traditions et des savoirs ancestraux, pour finalement faire un tour du monde qui avait du sens pour nous. Parce que je pense que ces peuples racines sont vraiment porteurs d'un message essentiel. Ils ont su encore préserver une certaine façon de vivre ensemble et je pense qu'ils ont des clés intéressantes à nous partager. Voilà le pourquoi.
Effectivement. Surtout que le Chiapas, c'est quand même une région qui revendique cette culture maya au sein du Mexique.
Tout à fait. Il y a une multitude, une diversité de costumes, une diversité de langues avec une identité très très forte. Malheureusement, aujourd'hui quand même, un peu bafoué et en tout cas chamboulé par la modernité et aussi malheureusement un certain racisme.
Oui, effectivement. Mais alors Philippe, comment est vraiment, et si on redescend, on allait vraiment chercher cette idée-là, l'idée de partir à la rencontre des peuples racines. Pourquoi les peuples racines?
C'est un peu ce que je vous ai dit, ces peuples racines, pour moi, représente je dirais pas une intuition, mais un instinct qu'on a un peu perdu chez nous. Et quand moi je me retrouve avec ces peuples-là, c'est principalement souvent en forêt, j'ai tout mon instinct renaît et le mental se remet à sa juste place. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a une clairvoyance qui se met en place. C'est assez phénoménal. C'est vraiment je sais pas si c'est un phénomène surnaturel. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment, je me sens vivant et je me sens vivant à 100%.
Donc, c'est vraiment. Que vous comblez un manque de
Je pense.
affectif au sens intime du terme, où cette société actuelle dans laquelle vous vivez peut-être vous assiste trop et au dépens de vous en tant qu'individu?
Ben, je pense qu'on porte trop de masques. Alors, je vous expliquerai un peu comment ils vivent et quel est leur état d'esprit, mais je pense qu'on porte trop de masques au niveau social et que parfois on descend pas suffisamment dans les ressentis et qu'on reste un peu au niveau mental. Et je trouve qu'on perd de la profondeur dans les rapports humains.
Effectivement. Et comment vous êtes-vous préparé à ce voyage, à ce long voyage?
Alors c'est vrai que ce long voyage, pour moi, c'était un peu d'abord un échappatoire, parce que j'avais à peu près 25 ans de société là qu'on avait créée en 1985, et je me sentais un peu au bord du burn-out. Mais je savais pas comment changer. Je savais qu'il fallait que je transforme quelque chose dans l'entreprise parce que j'étais plus aligné, mais je savais pas quoi. Donc mon échappatoire, c'était de se dire, bah maintenant, je vais enfin réaliser mon vieux rêve, faire un tour du monde, et pas faire un tour du monde, comme j'ai dit avant, pour bouffer des kilomètres, mais plutôt pour aller à la rencontre de ces peuples racines. Donc si vous voulez, la préparation prend du temps d'un point de vue administratif, parce que c'est compliqué, notamment au niveau des impôts et plein d'autres choses. Donc on a beaucoup préparé au niveau administratif. Après, nous, on avait nos rencontres qui étaient plus ou moins planifiées. D'autres, bien sûr, qu'on a spontanément saisi sur place. Et le plus lourd psychologiquement, c'était les démarches administratives. Là, je parle d'un point de vue privé. Après, d'un point de vue professionnel, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, on a préparé ce voyage pendant un an chez nous, ici dans la société, pour faire bouger les lignes et pour préparer mon absence. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un rôle un peu de manager paternaliste. Donc, mes coéquipiers étaient plutôt, j'avais plutôt une relation parent-enfant. Donc, couper le cordon, ça se prépare. Et là, je me suis rendu compte finalement qu'en préparant ce voyage un an avant le départ, ça m'a permis vraiment de faire bouger les lignes en interne. Et on commençait déjà finalement à se transformer à ce moment-là.
Oui, donc, effectivement, vous étiez dans une société un petit peu paternaliste. Et donc, vous avez libéré vos enfants.
Tout à fait, tout à fait. C'était le début. C'était le début de la libération, un an avant le départ.
Lui-même, c'est déjà un projet, celui-là, au retour.
Oui.
Bien, Philippe, au cours de votre voyage, vous êtes allé vivre plusieurs semaines auprès de diverses tribus, hein, puisque oui. Vous avez fait un tour du monde, établi aux quatre coins du monde. Et comment se passait concrètement votre vie auprès d'eux?
Ben, c'est un peu ce que je vous disais avant, il y a l'instinct qui reprend le dessus, et là, il n'y a plus de chef d'entreprise. Hein. Quand vous arrivez auprès d'un peuple de chasseurs-cueilleurs, il y a deux chefs qui régulent la vie, c'est la nature, ça c'est le premier chef, et le deuxième chef, c'est le chaman. Donc le premier chef, la nature, c'est elle qui vous nourrit, puisque c'est, comme je l'ai dit, des peuples de chasseurs-cueilleurs. Quand la chasse est mauvaise, et ça nous est arrivé quand il pleut beaucoup, la chasse n'est pas bonne. Les enfants, ils avaient à l'époque 7 et 9 ans, parfois vous avez un peu les crocs. Et je me souviens d'une semaine qui était vraiment pas bonne, on n'avait pas beaucoup mangé, les enfants avaient très faim, et je me souviens que José, là c'était en Équateur, avait marché une demi-journée pour nous ramener un petit bout de fromage qui avait été laissé par des missionnaires. On l'a fait cuire dans une feuille de banane, et croyez-moi, c'était la plus belle raclette que je n'ai jamais mangée au monde. Voilà, donc ça c'est pour le côté chasse, et donc c'est la nature forcément qui vous nourrit, c'est la nature aussi qui vous soigne, donc la pharmacie elle est dans la nature. Là c'est le rôle du chaman, c'est le deuxième chef, le chaman il va rythmer les journées, il va déjà accompagner le matin avec la tisane médicinale, il va accompagner les jeunes pour transmettre la mémoire, c'est une transmission orale. Si je prends cet exemple, les Sarayaku en Équateur, le gouvernement, ou je ne sais plus si c'était une association humanitaire, avait construit une école en dur. Mais finalement, ils l'utilisaient pas, cette école, et je leur demandais, mais pourquoi? Ils ont dit, ben non, nous, l'école, c'est dans la nature. Après, s'ils sont venus jusqu'à chez nous pour construire cette école, c'est que c'est important pour eux, donc on n'y touche pas, on y prend soin, mais on n'y va pas. Et le chaman, c'est aussi un guérisseur, donc c'est lui qui connaît les plantes et qui va les chercher dans la nature. Et c'est aussi lui qui va piloter tous les rituels qui vont rythmer la vie des communautés. Donc finalement, quand vous arrivez, vous n'êtes pas du tout habitué à ce rythme-là. Donc déjà, quand vous arrivez la première fois, le temps, il vous paraît très long. Donc il faut vraiment changer la relation au temps, arriver à lâcher prise. Et ça, ça prend quelques jours, hein, bien entendu. Et puis au début, vous êtes aussi très surpris par les bruits de la forêt. Donc vous dormez, les huttes sont ouvertes, et vous dormez la nuit, mais c'est très compliqué de s'endormir parce qu'il y a des bruits multiples. Et celui qui fait le plus de bruit, c'est le crapaud buffle. Donc les trois premières nuits, c'est vraiment une pollution sonore. Et après, croyez-moi, vous vous endormez avec un opéra extraordinaire au son et à l'écho du bruit du crapaud buffle.
Mais c'est vrai qu'il est bruyant. Je connais aussi. Aller à la rencontre de peuples racines, c'est pas courant. Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté d'un point de vue personnel ?
Ah, ça c'est une vaste question parce que c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, ça a été un voyage intérieur assez extraordinaire. Et si vous voulez, un des enseignements premiers, et les Maasai le disent, d'abord tu dois faire l'ordre à l'intérieur de toi. C'est un des premiers préceptes de vie Maasai. Donc j'ai appris que le premier travail, ben, il fallait que je le fasse sur moi. Après, c'est vrai que c'est ce que je disais avant, c'est un vrai réancrage avec la nature. Donc ça, pour moi, c'était important de retrouver la terre. Ça redéveloppe un peu l'instinct, ou plutôt l'intuition, hein, chez nous, c'est ce que j'appellerais l'intuition. Et c'est, surtout, ça permet de replacer le mental à sa juste place. Parce que là-bas, le mental, je dis pas qu'on l'utilise pas, mais il sert un peu moins dans ce genre de société, comme je disais, qui ont plutôt des relations plus centrées sur le ressenti. Après, ce que ça m'a apporté aussi, c'est que de voir finalement que le collectif est beaucoup plus fort que l'individu et que la concertation collective en amont, ça renforce l'action et ça va nourrir l'action. Et je trouve que nous, chez nous, dans nos sociétés, souvent on va très rapidement vers l'action, donc plutôt le comment, mais on se pose pas la question du pourquoi. Donc, c'est pourquoi. Je me souviens, on était chez un peuple qui était à 3 jours de pirogue du premier village, qui avait un centre de médecine, et ils étaient en grande réflexion. Là, c'était une communauté de femmes qui était en grande réflexion pour savoir s'ils allaient introduire la radio ou pas, pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Donc, c'était toute une réflexion, et ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Ils se réunissaient énormément pour savoir pourquoi ils vont le prendre, s'ils vont le prendre, qu'est-ce que ça va apporter à la collectivité. Donc, c'est toujours cette question du pourquoi on va le faire et qu'est-ce que ça apporte au collectif.
Oui, donc c'est après, une prise de décision collective, quoi.
C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et après, ce qui est extraordinaire, c'est la joie de ces peuples. Ils sont joyeux, ils ne se prennent pas au sérieux. C'est aussi, je crois que c'est un précepte dans les 4 accords Toltec. On ne prend pas les choses pour soi. Donc, c'est assez extraordinaire, la joie qu'ils ont, l'optimisme et le positivisme, mais ça paraît tellement naturel chez eux. J'ai jamais vu, pourtant on était quand même chez différents peuples assez longtemps, j'ai jamais vu d'avis négatif, quoi, ou de ressenti négatif. Il y a toujours du positif.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de leader ?
Alors ça, c'est différent, bien sûr, au niveau des peuples. Il y a plus un inspirateur, entre guillemets. Bon, après, ça dépend du fonctionnement et de la structure de chacun. Mais c'est plus, effectivement, une gouvernance collective.
D'accord. Et l'égalité homme-femme, l'égalité homme-femme, c'est un terme de nos sociétés, mais
oui,
il y a une compétition pour l'accès à une quelconque dominance entre hommes et femmes, ou c'est chacun dans l'organisation à son rôle et aucun rôle n'est primordial?
Alors chacun a son rôle, aucun rôle n'est primordial, et c'est aussi très différent le rôle ou la relation homme-femme. Dans les différentes tribus, ça varie énormément, énormément. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est que la partie, la féminité qu'on a en nous, c'est elle qui va plutôt cultiver justement tout ce qui est intuition, feeling, émotion, ressenti. Et ils pensent, il y a une prophétie Hopi qui dit que c'est la transformation va s'opérer par les femmes.
Il y en a un qui a dit que la femme était l'avenir de l'homme.
Oui. Tout à fait, donc je dirais dans l'entreprise, enfin dans les organisations, développons notre partie féminine, notre part de féminité qui manque cruellement dans nos relations au sein des organisations, je pense.
Effectivement. Philippe, notre émission touche à sa fin. J'ai une dernière question qui me vient. Quelles ont été les conséquences de ce voyage dans votre vision de chef d'entreprise, puisque vous êtes, je le rappelle, vous êtes parti faire ce voyage, mais aviez déjà une entreprise.
Moi, tout a été bouleversé. J'ai changé, moi, personnellement, du tout au tout. Comme je disais, je suis passé de la posture d'un manager plutôt paternaliste descendant à un porteur d'eau pour mes coéquipiers aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai deux fonctions. Je suis un porteur d'eau et je suis gardien de la vision. Donc, ça veut dire que je suis un peu, il y a le cercle, c'est mes coéquipiers, je suis un peu en dehors du cercle. Donc, je suis passé d'une relation vraiment de parent à enfant à adulte. Et ça change tout. Aujourd'hui, on place l'humain avant l'économique. On a une vision qui est être mieux pour être meilleur. Donc d'abord l'humain avant la décision économique. Donc le pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça nous apporte à nous. La vision avant l'action. Donc on n'avait pas de vision vraiment incarnée. Aujourd'hui, notre vision, elle est nourrie tous les jours. Et c'est mon rôle. On a une gouvernance collective, donc toutes nos décisions sont prises collectivement. Et plus la décision elle est stratégique, et plus elle est importante, et plus elle sera prise en collectif, qui est souvent l'inverse dans les organisations. Plus la décision est stratégique, et plus elle sera prise en comité restreint. Donc nous avons tout simplement, enfin quand je dis tout simplement, c'est énorme, mais nous avons tout simplement changé notre façon de vivre ensemble au sein de notre entreprise.
Ça veut dire que vous êtes parti d'une communauté peuple racine. Et vous avez créé votre communauté peuple moderne. Mais
c'est ça.
Question, est-ce que votre vision en tant que PDG d'une entreprise, elle est adaptable à quelle que soit la taille de l'entreprise?
Alors oui, juste PDG, pour moi, c'est un peu un gros mot. C'est plutôt PMR.
Oui, est-ce que...
Je suis provocateur de micro-rêves, si vous voulez, dans l'entreprise. Oui, et elle est tout à fait, on peut tout à fait effectivement la diffuser. Donc peu importe la taille. Il faut juste faire attention, on sait qu'un cercle de 40 personnes, c'est le maximum. Donc si vous avez des organisations de plus de 40 personnes, il faut essayer de créer des cercles de 40 personnes maximum. Dans l'idéal, la personne qui inspire ce cercle est nommée par ses pairs, c'est-à-dire c'est une élection sans candidat. Ça veut dire que je ne vais pas nommer l'expert métier parce qu'il est là ou l'ancien parce qu'il est là, mais c'est plutôt le collectif qui va dire « Ah ben c'est Michel ». Qui va piloter ce petit cercle de 40 personnes parce que je sais qu'il saura nous emmener, il est charismatique et c'est lui qui va nous emmener où il faut. Et peu importe l'activité, tant qu'on est un groupe à partir de deux personnes, on peut faire vivre ces valeurs et cet état d'esprit.
Mais écoutez, merci Philippe Studet. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes, alors je dis PDG, vous dites PMR, Edith Institute.
Tout à fait. Merci Jean-Michel, oui.
Chers auditeurs, j'espère qu'à travers le partage d'expérience de Philippe en tant que manager et chef d'entreprise, vous êtes en capacité d'apprécier le sujet de la transformation des pratiques managériales à l'occasion de l'accompagnement au changement. Parce que là, effectivement, il est passé d'homme à PMR. Donc, président, redites PMR.
Provocateur de micro-rêves.
Provocateur de micro-rêves. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Merci.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.